I would like at the outset to congratulate.
Je voudrais féliciter pour commencer l'Institut Schiller et son directeur Helga, et aussi vous, Monsieur Larouche, pour tous les efforts que vous avez essayé de faire pour faire le monde meilleur pour l'humanité. Je nous souhaite un plein succès dans cette importante conférence et espère que le résultat sera bénéfique pour nous tous. Le thème de notre conférence est très approprié et intervient ou à un moment où l'humanité n'est pas simplement confrontée à la pire crise économique depuis la dépression de 1928, mais aussi la pire crise des réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, en raison de la politique agressive des États-Unis ces 10 dernières années, qui a détruit essentiellement l'Afghanistan, l'Irak, la Libye et la Syrie. L'Union européenne continue de s'effondrer progressivement en détruisant ses États membres, ce qui oblige certains à la quitter, alors que son déficit démocratique est en augmentation et les partis d'extrême droite de plus en plus proches du pouvoir. L'économie mondiale n'arrive pas à sortir du cercle vicieux dans lequel elle est depuis l'émergence de la crise de 2008. Nous assistons à des manifestations au niveau mondial contre les mesures d'austérité qui accroissent la pauvreté au lieu de la croissance et contre les systèmes financiers cupides qui conduisent à des inégalités sociales extrêmes. Les manifestations en France en sont un bon exemple. Jusqu'à présent, personne n'a été à l'écoute des populations. Et il est temps, enfin, que des décisions soient prises sur les priorités qui seront bénéfiques pour les intérêts des êtres humains. Nous ne devrions plus nous poser la question de ce que les marchés disent, mais ce que les populations disent. Et ça, c'est le problème majeur auquel nous faisons face aujourd'hui. L'Union européenne est non seulement devenue une organisation incompétente, mais elle est aussi dans le désarroi, comme on peut le voir avec le Brexit et le référendum de ce jeudi. Les gens en Grande-Bretagne ont décidé de quitter une institution en faillite. Ils ont créé un précédent pour d'autres pays à faire la même chose. Juste avant de venir ici, j'ai vu un expert de l'actualité de Slovaquie qui se rassemble pour avoir des signatures, pour aussi avoir un référendum en Slovaquie pour quitter l'Union européenne.
The situation, of course.
Donc, l'effondrement de la situation économique suite au vote. Avec la réduction de la livre sterling, le Royaume-Uni pourra probablement augmenter massivement ses exportations. Et l'accord final qui viendra après les négociations selon l'article 50 du traité de Lisbonne, ce sera ce que la relation que la Suisse aujourd'hui a avec l'Europe. Il y aura des libertés de circulation de la plupart des choses. Donc, rien ne va changer dans la vie de tous les jours, mais ce qui va changer, c'est la décision politique qui va être prise à l'intérieur de l'Union européenne, avec l'Union européenne qui ne sera plus dedans. C'est déjà ce matin, on a eu une réunion des ministères des Affaires étrangères, des 6 États membres qui ont créé l'euro, qui ont créé l'Union européenne, pardon, et ils sont sortis en disant que ces négociations sont liées directement à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et pourquoi les gens en Grande-Bretagne ont voté pour partir, c'est la situation en Grèce. La situation se détériore. Après la législation qui a été votée au Parlement le 22 mai, la Grèce a cessé d'exister en tant qu'État, ayant donné la gestion économique du pays aux prêteurs et à l'Union européenne pour les 100 prochaines années. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'un pays décide de s'auto-dissoudre. Le Parlement n'a plus aucun rôle à jouer dans l'économie. En mai 2010, si on retourne un peu en arrière, le gouvernement grec a été contraint de signer l'accord des prêts conditionnés afin qu'il puisse, par des mesures d'austérité, réduire la dette publique, qui en 2009 était de 129% du PNB, ce qui faisait 299 milliards d'euros en chiffre absolu, après trois mémorandums. La mise en place des politiques erronées de l'Union européenne, le FMI et le gouvernement grec, non seulement la dette publique n'a pas été réduite, mais elle a augmenté à 180% du PIB, comparé à 129% en 2009. Et le gouvernement de Syriza, qui a été élu sur un programme anti-austérité, a trahi le peuple grec en faisant exactement le contraire. Il n'a même pas pris en compte les résultats du référendum de juillet dernier, dans lequel 62% de la population a voté contre les mesures d'austérité. Et malgré qu'ils aient reconnu leurs erreurs, l'Union européenne, la Banque centrale européenne, le FMI, continuent d'insister sur la mise en œuvre des mêmes politiques inefficaces qui détruisent un État membre de leur Union européenne et de son peuple. Le chômage est passé à 25% par rapport à 9% en 2010. Des Grecs qui cherchent de la nourriture dans les poubelles est devenu quelque chose de commun dans nos rues. Une hausse de la fiscalité a paralysé l'économie, le système de santé s'est complètement effondré et plus de 5000 personnes se sont déjà suicidées. Et je voudrais citer M. LaRouche dans une déclaration qu'il avait faite en février dernier sur la dette grecque et qui a été positivement entendue en Grèce d'ailleurs. Il a dit la dette grecque en tant que telle et n'est pas une dette grecque. La dette est à l'Allemagne. Et les pays qui demandent à ce que la dette soit payée, c'est l'argent que les Grecs n'ont jamais eu. Donc les Grecs ne doivent pas cet argent. C'était une escroquerie parce que les Grecs n'ont pas souscrit à cette dette. Et je voudrais vous remercier ici, M. LaRouche, pour cette déclaration que vous avez faite l'an dernier. Et la Grèce, en tant que membre de l'Union européenne, il n'y a pas de possibilité de développement dans le pays. 2 millions de personnes ne peuvent pas payer d'impôts et je suis dedans. C'est pire que sous l'occupation ottomane. Les retraites ont été réduites de 50%, les salaires ont été réduits de 40%. 18 aéroports ont été vendus justement aux Allemands dans le cadre de la privatisation. Donc on a privatisé nos aéroports en les cédant à une économie, une société nationale allemande, ce qui est drôle de type de privatisation. Donc, c'était la violation. Donc, ça a été mentionné dans le rapport qui a été fait des Nations Unies de Pablo Wroclawski, justement sur le viol des droits humains. Les gens ne peuvent plus payer leur hypothèque parce que leurs revenus ont diminué à la réduction de leur salaire et de leur retraite et l'augmentation des prix. Et c'est là où on a une première réaction. Les saisies de logements sont en constante permanente. Elles sont faites par la violence, malheureusement, avec des armes. Et c'est autorisé par notre Constitution. L'article 20, paragraphe 4, autorise les gens de Grèce à utiliser tous les moyens possibles dans le but de protéger la constitution grecque.
56,000 réfugiés are stranded in Greece.
Donc des centaines de 480 000 réfugiés sont actuellement dans le pays à cause des décisions de l'Union européenne. 60 000 réfugiés actuellement en Grèce et en Italie devaient être installés dans les États membres. Aujourd'hui, la Grèce accueille 56 000 réfugiés. Ils ont vu ce qui s'est passé dans les autres pays européens. Et nous, on leur a dit, voilà, si vous restez dans ces politiques-là, ils vont partir, les gens, et ils vont venir chez nous, et il ne faut pas s'étonner. Donc la guerre provoquée par les États-Unis en Syrie, avec la participation des États de l'Union européenne, a créé la plus grande crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est 5 millions de réfugiés qui ont quitté la Syrie pour demander l'asile, principalement dans l'Union européenne. Et l'Union européenne a été incapable de gérer cette crise humanitaire des réfugiés, elle qui était la championne du monde. Alors que nous, on n'a pas participé à la guerre en Syrie, on a été inondé par un nombre accru de réfugiés, alors que beaucoup de pays membres de l'Europe centrale ont refusé de les accueillir, comme la Hongrie, la République tchèque. Et ils ont été des réfugiés en leur temps, quand l'Union soviétique, par l'invasion de l'Union soviétique à l'époque. Et je peux imaginer comment ils ont oublié cela. Donc il y a eu un accord entre, justement en mars, entre l'Union européenne et la Turquie, mais qui n'était pas à la hauteur des décisions décidées auparavant. Les États-Unis, qui ont créé cette guerre en Syrie, ils ont eu simplement 4 000 réfugiés, et ça, c'est la honte.
Another threat facing humanity,
une autre menace. C'est une autre menace auquel fait face l'humanité, c'est l'animosité américaine envers la Russie, comme si nous étions encore dans la période de la guerre froide. Un système de missiles est mis en place pour encercler la Russie. Et bien sûr, Moscou prépare un bouclier de défense pour le contrer. Et l'embargo de l'Union européenne contre la Russie après la crise ukrainienne n'a pas du tout été là pour aider la situation. Et des menaces ont été récemment faites par Obama contre la Chine et la nécessité de limiter son pouvoir économique. Donc, avec une Europe qui se désintègre et les USA à la recherche de confrontations avec la Russie et la Chine, une solution pour l'humanité peut être l'initiative des BRICS. Les initiatives du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud à poursuivre une politique de développement économique pour le bénéfice de l'humanité. Ils ont créé leur propre banque de développement pour investir dans des projets de développement nécessaires. Et la Chine a également mis en place la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, dans laquelle plus de 20 nations d'Asie sont membres fondateurs, et a mis en place le fonds pour le développement de la nouvelle route de la soie. Et la Chine a proposé la création d'une zone de libre-échange entre l'Asie et le Pacifique, mais ça a été rapidement rejeté par Obama, qui a créé sa propre organisation de libre-échange. Et l'intégration de l'organisation de coopération de Shanghai au BRICS pourrait créer un élan formidable, ce qui, évidemment, si cela ça reste en dehors du contrôle des banquiers, pourrait être décisive pour que l'humanité atteigne la paix et mettre fin à la pauvreté mondiale par le développement économique. Par rapport à ce qui a été mentionné précédemment, nous pouvons dire qu'il y a une crise de civilisation qui entrave le progrès de l'humanité. Je suis totalement d'accord avec le point de vue de l'Institut Schiller que nous avons besoin d'une renaissance de la culture classique, car nous voyons que les mesures prises pour empêcher que cela, n'arrive. Non seulement le système éducatif en Grèce est en train de faire tout son possible pour faire disparaître la culture classique, la philosophie, la culture classique, et c'est comme aux États-Unis, on supprime tout ça, l'humanisme, la philosophie. La culture classique, qui contient l'humanisme, la philosophie, les sciences, l'art, crée la peur, en fait, chez les classes dirigeantes qui ne veulent pas voir les gens réfléchir à nouveau. Nous devons résister à cette tendance-là. Et en ce qui concerne le dialogue des cultures, oui, nous devons par tous les moyens faire que cela ait lieu, et peut-être même nous pourrions faire partie du Bureau du dialogue des civilisations des Nations Unies pour le rendre encore plus efficient. Tous ces efforts sont utiles pour améliorer tous les efforts, en fait, pour une paix mondiale permanente. Donc, en conclusion, et après avoir critiqué l'Union européenne et les États-Unis, permettez-moi de proposer des solutions qui seront bénéfiques pour l'humanité. Pour la Grèce, c'est impératif de dénoncer l'accord de facilité des préconditionnés de mai 2010 sur la base de l'article 8.52 de la Convention de Vienne, donc l'article 8.52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ces articles prévoient la nullité d'un traité s'il y avait une erreur, une fraude ou la coercition sur un représentant d'un État, etc. etc. Tous ces cas-là s'appliquent à la Grèce. La cessation des paiements avec cette dénonciation de l'accord des prêts et la nationalisation de la Banque de la Grèce, permettrait au gouvernement grec de réparer les dommages faits et inciter un véritable développement. L'adoption d'une monnaie nationale suivra. Mon parti politique, l'EPAM, le Front Populaire Uni, un parti politique qui n'a pas encore d'élu au Parlement, soutient cette politique. Pour l'Union européenne, la transformation de l'Union européenne en une organisation efficace ayant comme seule priorité la sauvegarde des intérêts de son peuple, une nouvelle charte est nécessaire, rédigée pas par des bureaucrates de Bruxelles, mais des mouvements de citoyens des États membres qui présenteront leurs propositions à une assemblée européenne composée de représentants de ces mouvements mêmes. Les États-Unis doivent arrêter sa politique de destruction des nations et Obama doit rendre son prix Nobel de la paix au comité du prix Nobel de la paix qui lui a été décerné. Vu qu'il n'a rien fait pour le mériter. Et c'est pareil pour l'Union européenne qui, je vous le rappelle, a aussi reçu le prix de la paix. Et pour l'histoire, je voudrais rappeler à tout le monde que Theodore Roosevelt a aussi été prix Nobel de la paix, mais il a refusé de l'avoir avant la fin de son mandat, et ça c'était honnête. Donc les États-Unis doivent adopter une politique plus amicale envers la Russie et le reste du monde pour le bénéfice de l'humanité. Une proposition importante pour l'humanité que j'ai présentée publiquement, mais ça a été attaqué par les banques, c'est la suppression de la dette globale, qui est d'environ de 600 000 milliards de dollars américains. Sa suppression permettrait à l'humanité de redémarrer sur des bases nouvelles et saines. Dans l'histoire, nous avons des exemples de suppression de la dette. de suppression de la dette. Dans la Grèce antique, la Sisatia de Solon, au jubilé des anciennes communiqués hébreux, qui tous les 50 ans annulaient toutes les dettes dans des jubilés. Même pendant les années 70, les pays développés de l'Occident ont supprimé des dettes des pays des mouvements non alignés, permettant ainsi l'essor économique de pays comme la Yougoslavie, par exemple. Donc le mouvement des BRICS peut promouvoir cette politique, même si la décision doit être prise par le G8. L'humanité dans son ensemble bénéficiera car elle sera en mesure de redémarrer sur des principes sains et clairs. Donc afin de mettre en œuvre les propositions mentionnées ici, il est nécessaire d'avoir des politiciens qui ont de l'imagination, une vision et du courage. Des politiciens qui se soucient du progrès de l'humanité et qui peuvent contrôler la cupidité des entreprises multinationales en limitant leur pouvoir. Ces politiciens n'existent pas aujourd'hui. Nous devons donc les créer. Merci à tous.